Alors, la première étape, si on demande une libération, quelle qu'elle soit, c'est évidemment de nous repentir de nos péchés, de les reconnaître, et de nous tourner vers le Seigneur. C'est une rencontre avec Jésus. C'est la première étape. Si vous voulez, des personnes qui me disent, moi, vous pouvez prier si vous voulez, mais je ne crois pas trop en Jésus. Pas sûr que je vais prier pour eux. Bon, parce que, si vous voulez, l'Évangile nous dit qu'on chasse un démon, il y en a des autres qui reviennent, ou sept autres. Donc, la personne doit être en Christ. Perd son temps, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. La repentance, surtout si on a des portes ouvertes à ces influences mauvaises, c'est important d'avoir une vraie repentance. D'accord, pas seulement formel. La deuxième étape, on l'a vu la dernière fois, c'est le pardon. Nous avons remarqué bien souvent que le manque de pardon, ou un pardon non donné, du style « je ne suis pas capable aujourd'hui de pardonner, mais je m'en occuperai plus tard », c'est absolument toxique. Toxique, on a vu aussi que ça pouvait être toxique physiquement. Je me rappelle d'une personne Vendée, qui avait écrit même un livre de sa guérison d'un cancer le jour où elle a pu pardonner. Donc physiquement, ça suit aussi. Et spirituellement, bien sûr. Donc le pardon, très important. On dit, si, j'ai pas pardonné, mais en fait, on n'a pas pardonné. Et ça, c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Aujourd'hui, c'est une autre étape qui... En fait, c'est une étape aussi de conversion. La conversion, donc, qui va consister à quitter quelque chose, quitter finalement une façon de vivre, une façon d'être, pour entrer dans une autre façon de vivre, une autre façon d'être. Voilà, on va, donc, si vous voulez, c'est, moi j'ai appelé... cette petite conférence, de l'esprit du monde à l'esprit de Dieu. C'est un baptiste, non ? De l'esprit du monde à l'esprit de Dieu. Oui, et c'est la première étape de ce propos. Nous faisons allégeance d'une façon ou d'une autre à ce que la Bible appelle l'esprit du monde, c'est-à-dire à l'esprit antéchrist. Il y a souvent en nous une complicité avec l'esprit du monde. Et oui, et il nous faut le reconnaître. Alors, Galates 5, on sait bien à quelles actions mène la chair. Alors, attention, chez saint Paul, la chair, c'est pas forcément le corps. C'est tout ce qui est en nous est contre Dieu. C'est ça la chair. Donc ça intègre aussi notre psychologie. Quelles actions mènent la chair ? Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme j'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Bon, quand on dit on ira tous au paradis, bon, il y a une déresponsabilisation dans ce truc-là. Non, il y a aujourd'hui à prendre conscience que une certaine allégeance à l'esprit du monde nous entraîne loin de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. On va essayer de retenir au moins les trois premiers fruits du Saint-Esprit. Vous avez retenu ? Premier fruit, l'amour. Deuxième, la joie. Troisième, la paix. On va retenir au moins ces trois-là. Un signe que le Saint-Esprit est là, même dans des moments difficiles. Jésus a eu des moments plus que difficiles à Gethsémani. Eh bien, il y a une paix que personne ne peut nous arracher. Et une joie. qui est une forme comme de force intérieure. Jésus à Gethsemane éprouvait cette joie, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sainte Catherine de Sienne. La joie de sauver le monde, dans les dialogues de Sainte Catherine de Sienne, et aussi la petite Thérèse de Lisieux a parlé de cette joie du Christ de sauver le monde. Et c'est le pape Jean-Paul II à l'époque qui avait fait un petit paragraphe là-dessus dans sa lettre d'entrée dans le nouveau millénaire, si vous l'avez lu. Voilà. Alors, donc pour nous, on a deux choses à faire. Un, renoncer aux œuvres, ce que Saint Paul appelle les œuvres de la chair. Donc, les 10 commandements, vous connaissez. On va les revoir. Premier commandement. Tu adoreras Dieu seul et les noirs plus que tout. Le deuxième. Il faudra peut-être revoir le catéchisme. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Troisième commandement. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Et après la messe? En Dieu. Parce que le dimanche, c'est 24 heures, d'accord? La messe, elle est combien de temps? Une heure et demie. Il reste combien de temps à sanctifier? Voilà, qu'est-ce que l'on fait le dimanche? Intéressant, hein? On va être sur la suite. Quatrième commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Cinquième. Wow, tu ne tueras pas. Sixième. Pas d'impureté. Pas d'adultère. Septième, tu ne voleras pas. Huitième, tu ne mentiras pas. Neuvième, pas de désir impur, volontaire. Dixième. Très bien. Wow, il y en a qui sont super en catéchisme. Bon, alors moi je fais juste remarquer un truc. Parce qu'on peut flirter malgré tout avec l'esprit du monde en ne suivant pas scrupuleusement les 10 commandements. On est déjà, vous voyez, dans la pédagogie de l'Ancien Testament. Alors, on va parler du Nouveau Testament. Comment on fait pour flirter avec ça? Ben, je vais vous dire. La logique du satanisme, c'est quoi? Eux, ils s'entraînent surtout aux 3 premiers commandements. Pour que, soit, il n'y ait plus de prière, soit, s'il y a de la prière, c'est quasiment blasphématoire, parce qu'on se transforme en moulin à prière et attaqueur. Soit, ben c'est inversé carrément. Okay? Ça, c'est la première stratégie contre Dieu, et puis on va se lancer dans l'astrologie, dans les cartes, dans la voyance. Et vous avez des cathos qui font ça. Okay. Ça, c'est la première stratégie démoniaque. Vous faire flirter avec, finalement, le péché contre les 3 premiers commandements, contre Dieu. Vous êtes cathos et puis vous allez voir une voyante, ou un voyant, ou quelqu'un qui passe le feu, et tous ces trucs-là. Okay. Magie blanche, magie noire, etc. Deuxième stratégie de l'ennemi, c'est il vous fait flirter avec le 5e commandement. Bon, l'avortement. Un avortement est, en fait, une offrande à Satan. Il aime beaucoup ce genre d'offrande. Ok? Et si on dit que l'avortement, c'est pas grave, on flirte carrément avec Satan et ses adeptes. Mais, évidemment, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on peut tuer par nos pensées et par nos mots. Donc, là, on peut flirter aussi avec le satanisme. Bon, être du côté de l'ennemi. Vous voyez? Alors, et, parce que je dis ça parce que souvent, on fait une allégeance à l'esprit du monde. Du style, bah, vous êtes contre l'avortement, évidemment. Enfin, si ça arrive à quelqu'un, hein, si vous avez votre enfant qui attend un enfant à 17 ans, bon, voilà, etc. Et puis après, plouf, vous tombez lamentablement. Allégeance à Satan. Et troisième type d'allégeance, c'est que c'est le 6e commandement, vous avez compris. sixième commandement, par rapport à la pureté, on va se dire, ben maintenant, ça c'est plus un péché, donc on va se permettre d'avoir ce type de péché régulier. Donc, c'est pas très grave, etc. Donc, waouh. Parce que le sixième commandement, si il nous dit que l'homme et la femme sont des êtres spirituels, d'accord ? Donc, la sexualité déviée, c'est en fait, l'homme et la femme sont des animaux. Parce que si ce sont des êtres spirituels, alors tout ce qui concerne l'amour, ben, est en lien avec Dieu et la vie spirituelle. Et on va respecter le mystère. Comment est-ce qu'on s'aligne ? Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu frappé. Vous savez, on a l'habitude, nous, de recouvrir le ciboire d'un voile quand Jésus est dans le ciboire. Alors, le vêtement, c'est un peu ça. Quand nous portons des vêtements, c'est un peu comme un voile qui voile un mystère. Et moi, quand je vois une certaine mode, où soit les vêtements sur les plages, pas trop, et en fait, pour faire sortir je sais pas quoi, ou alors dans la vie courante, toutes les formes, tout ça, vous voyez ce que je veux dire au niveau des dames, eh bien, vous aplatissez le mystère, il n'y a plus de voile. Donc, il y a une profanation. Profanation du temple de Dieu. C'est intéressant de réfléchir à ça. Donc ça, c'est vraiment satanique. Et nous, on peut flirter avec ça. Et si on flirte avec ça, ne nous étonnons pas, nous n'obtenons pas de délivrance. C'est pas possible. On va rester dans nos trucs. Vous voyez ? Voilà. Alors, bon, c'était juste un petit aparté avant de commencer le sujet. Parce que, si vous voulez, la pédagogie de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est les 10 commandements. Okay, et dans le Nouveau Testament, Jésus va nous dire ce qui accomplit la loi. Et ce qui accomplit la loi, c'est d'aimer le commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Donc, aimer tout court, vous allez dire j'y arrive, je suis bien élevé, je suis poli, je suis gentil, j'aime tout le monde, mon père, j'ai pas de péché, ok. Vous repasserez une autre fois. Bon, et en fait, Jésus a dit aimez-vous comme je vous ai aimé. Donc on peut se confesser tous les jours. Alléluia. Pardon Seigneur, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas aimé comme toi tu aimes. Donc si nous voulons aimer comme Jésus aime, il n'y a qu'une seule solution, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Donc il y a deux étapes de conversion. On va voir celle-là aujourd'hui. Comment nous tourner vers Dieu pour que nous vivions dans le Saint-Esprit. Pour que ce soit le Saint-Esprit en nous qui aime et aussi qui nous inspire les justes pensées. Jésus dit « Je suis la vérité ». Vous voyez, depuis Descartes, je pense « comme je suis », on s'est complètement trompé. Oui, excusez-moi, on s'est trompé. C'est pas parce que moi, mon pas, je pense que j'existe. Mais par contre, si j'aime de l'amour de Dieu, ce qu'avait dit Saint Augustin, j'existe, oui. Et ça, c'est ma vraie identité. Alléluia. Voilà le projet de Dieu sur nous. Sauf que ça demande une certaine conversion. Voilà. Une certaine conversion, parce que nous savons, Saint Paul nous le dit, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. Donc, notre objectif, c'est d'être saint. J'espère que c'est le vôtre. Est-ce que vous avez envie de devenir un grand saint ?
Oui.
C'est un peu timide, hein, votre oui. Vous savez, la petite Thérèse de Lisieux, on va commencer par là, parce que, bon, c'était une trop grande... Voilà, Thérèse de Lisieux, on l'a fêtée dimanche dernier sans la fêter. On va parler d'elle aujourd'hui, si vous permettez. Et la petite Thérèse de Lisieux, un jour, elle a dit à son confesseur au Carmel, « Je veux devenir une grande sainte. » Vous savez ce qu'il lui a dit, le confesseur ?« Modérez vos ardeurs. » Quel orgueil. Il n'avait rien compris. Ok. Alors, en fait, cette conversion, qui est une deuxième conversion, voyez. La première conversion, c'est bon, je vais obéir aux 10 commandements. Ok, on a déjà vu ça. C'est déjà pas mal. Mais la deuxième conversion, c'est je veux maintenant obéir aux nouveaux commandements. Donc, je me dispose pour vivre dans le Saint-Esprit. Ça, c'est une conversion. Et en même temps, c'est une grâce. Alors, on va voir dans la vie de la petite Thérèse comment elle a reçu cette grâce et comment elle s'y est préparée. Mais on va aller très vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Alors, vous savez, dans la vie de la petite Thérèse, il y a beaucoup d'épreuves. À 2 mois et demi après sa naissance, sa mère, Zélie, manque de lait. Et il y a eu déjà plusieurs morts dans la famille à cause de ça, et elle a un cancer du sein. Donc, elle va confier la petite Thérèse à Rosalie Taillé. Et ça va durer un certain temps comme ça, le temps de la sevrée. Première blessure de séparation. À l'âge de 4 ans, la maman meurt de son cancer. Vous savez, quand on a ouvert, moi j'étais à Lisieux, quand on a ouvert les cercueils des parents Martin, Zélie Martin, elle a dû quand même bien dérouiller. On voyait quand même les os étaient bouffés par son cancer. Elle meurt de son cancer, mais vraiment simplement. C'est une, comme vous le savez, Zélie Martin, c'était une chef d'entreprise, une entreprise de dentelle. Elle a la messe tous les matins à 5h30 ou 5h. Et puis, et voilà, elle a dirigé ça dans le Seigneur. Et avec son mari, ils ont rêvé d'avoir tous leurs enfants donnés à Dieu. Et c'est bien ce qui s'est passé. Autre blessure d'abandon, à l'âge de 9 ans, la grande sœur, Pauline, qu'elle avait d'ailleurs adoptée pour sa mère, part au Carmel. Mais elle la prend par surprise. Et puis, une autre blessure, eh bien, plus tard, c'est l'autre sœur, la sœur aînée, cette fois-ci Marie, qui part au Carmel. Alors, la petite Thérèse a beaucoup de problèmes par rapport à la séparation, vous voyez, les blessures d'abandon, les blessures de réparation. Et ce qui est intéressant dans la vie de Thérèse, c'est que la grâce de Dieu dans sa vie va la guérir, de ces blessures-là. Alors, je vais passer assez vite. Vous savez que dans un premier temps, à l'âge de 10 ans, c'est la statue de la Sainte Vierge qu'elle voit sourire. Ceux qui ont été à Lisieux ont vu cette Vierge sourire. Et là, ce qui a été comme une maladie étrange est partie instantanément. Et c'était à la fin d'une neuvaine de messe à Notre-Dame des Victoires. Et c'était le jour de la Pentecôte, un 13 mai. Un an après, c'était la première communion de Thérèse où elle explique combien elle se sentait aimée de Jésus. Ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimée. Et je disais aussi, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. Elle avait tout compris. Elle vit déjà les fiançailles spirituelles. Et à chaque fois que nous communions, c'est ce qui se passe. Nous recevons Jésus, le cœur même de Jésus. Le cœur de Jésus. Et nous nous laissons aimer. Voilà. Alors, ça aurait été sa vie, si vous voulez, la petite Thérèse, vu ses blessures, c'était finalement d'être délivrée de tout scrupule, parce qu'elle avait envie d'être parfaite, et puis elle n'était pas parfaite, alors elle se prenait les pieds dans le tapis là-dedans, voilà. Alors, en fait, ce qui va être déterminant comme grâce pour elle, ça va être sa grâce de Noël 86. À peu près 10 ans, 11 ans avant sa mort. Noël 86. Là, elle revient de la messe de minuit avec le papa et Céline. Céline, c'était sa sœur qui finalement avait remplacé sa mère, puis qui la maternait, etc. Qui la traitait comme une toute petite. Enfin, Thérèse le voulait bien encore. Et ce jour-là, vous savez, les messes, c'était vraiment à minuit. Donc, je vous laisse deviner à quelle heure on rentre à la maison le soir de Noël. Et le papa et Céline, ils avaient disposé les cadeaux dans les souliers, toute cette cérémonie. En venant de la messe, le père est fatigué, manque de peau. Il s'assoit et il se dit, j'espère que c'est la dernière année. Il le dit tout haut. Et la petite Thérèse reçoit un coup dans le cœur et elle commence à vouloir pleurer parce qu'elle est très blessée de cette remarque-là. Et elle monte l'escalier, ceux qui ont été au buissonnet à mes yeux, et en haut de l'escalier, il y a Céline qui lui ouvre les bras. Et là, finalement, elle a le choix. Soit elle se maintient dans un esprit victimal. C'est une pauvre petite, elle a perdu sa mère, elle a perdu sa deuxième mère, elle a perdu sa troisième mère, victimale. Soit elle reste dans la victimisation, et elle a bien raison, avec tous les raisonnements, mais j'ai bien raison de me sentir une victime, vous voyez que je suis malheureux quand même. Bon, elle a le choix entre soit se jeter dans les bras de Céline, soit il se passe autre chose. Et il s'est passé autre chose, et elle dit c'est un miracle. Jésus a transformé son cœur, ce qu'elle n'a pas pu faire depuis la mort de sa mère, c'est-à-dire en 10 ans, Jésus l'a fait en un instant. En cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Sainte Trinité, Jésus, le doux petit enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. En cette nuit où il suffit, faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Vous voyez, la toute-puissance de Dieu dans la faiblesse de l'enfant Jésus. Il tient le monde dans ses mains, cet enfant. Si vous avez vu l'enfant de Prague, il tient le monde dans ses mains. Il est tout petit, même dans le ventre de sa mère. Il est Dieu. Et il fait ce miracle. Et là, elle dit qu'elle va commencer une course de géant. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis, je fus heureuse. Je vous le répète, je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis, je fus heureuse. Donc cette conversion, vous direz, c'est une grâce. Elle l'a reçue. Elle reçoit le Saint-Esprit et c'est une effusion du Saint-Esprit. C'est plus la même. C'est plus la petite fille qui va pleurer, d'avoir pleuré et pleurer parce que tout n'est pas parfait. Voilà. C'est une grâce. Et finalement, dans la vie de Thérèse, cette grâce va complètement s'épanouir. Donc là, on était en 86, 9 ans après, quand elle va découvrir que le cœur de Jésus a soif, pas de nos qualités, mais de nos péchés. Le cœur de Jésus attend que nous voulions bien lui donner tout ce qui est négatif en nous. Et ça, c'est donc cette découverte de la petite voix. Et voilà ce dont nous allons parler ce matin. Donc elle sent, elle va faire avec sa sœur en 95 exactement, une offrande, non pas à la justice comme on faisait à l'époque, pour calmer la colère de Dieu, entre guillemets, mais à l'amour miséricordieux. Elle voit que le cœur de Jésus, c'est comme si on mettait une pierre dessus pour que la source ne jaillisse pas. Et la pierre, c'est justement les non-conversions qui sont les nôtres, c'est-à-dire le manque de confiance et le manque d'abandon. Voilà. Alors, c'est ça que nous allons voir tout de suite, cette grâce de vivre dans le Saint-Esprit. J'espère que nous la désirons tous. J'espère. Parce que peut-être certains d'entre nous sont restés dans une logique de l'Ancien Testament. Moi, mon père, il n'y a pas de souci, j'ai fait mes communions, je fais mes Pâques, puis ça s'arrête là. Moi, vous voulez la conversion. Donc, la conversion, c'est pas je me convertis à un rituel, j'ai fait ma prière, donc c'est important, oui, prier, bien sûr. Mais c'est une disposition du cœur pour recevoir le Saint-Esprit. Et on va parler de ça ce matin. Alors si on a compris que ce que Dieu veut pour nous, c'est de faire de nous ses enfants, des enfants de Dieu. Je suis en logique, l'enfant d'un chat, c'est un chat. L'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant d'un homme, c'est un homme. Donc, il s'agit de devenir un enfant de Dieu, c'est-à-dire d'être Dieu. Oui. Vous y croyez, ça ? Ben, il s'agit d'y croire. Parce que relisez le début de l'évangile, on ne va pas l'inventer ces trucs-là. Le début de l'évangile de Saint Jean, la lumière est venue dans le monde, mais les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Mais tous ceux qui l'ont accueillie, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Jésus, vrai homme, vrai Dieu, va. Finalement, si nous acceptons de le suivre, mais pas seulement une fois par semaine, une fois par jour, ou une fois par an, mais de le suivre, c'est-à-dire de vivre en sa présence, de le laisser agir en nous, alors il va nous transformer. Comme l'hostie pendant la messe va être transformée, c'est plus du pain. Non, c'est plus du pain. C'est le corps de Christ, son humanité. Sa divinité. Alors nous, on va être comme des hosties, transformés. Ça ne sera plus de l'homme, mais ça sera un homme qui participe à la nature divine. Et je reprends, vous avez reconnu, la première épître de Saint-Pierre. Nous devenons participants de la nature divine. Il me semble que la première épître ou la deuxième, bon, vous vérifierez. Nous devenons participants de la nature divine. Waouh, waouh, waouh. Et si je participe à la nature divine, ça veut dire que en moi, il y a deux esprits. Il y a toujours mon esprit. Moi, c'est moi. Mais il y a l'esprit de Dieu. Et s'il y a l'esprit de Dieu, mon corps n'est pas seulement mon corps. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à la question. Vous êtes, vous faites partie du corps de Christ. C'est-à-dire votre corps, il n'est pas seulement à vous. Si vous acceptez que l'Esprit de Dieu habite en vous. Votre corps est le corps de Jésus. C'est saint Paul qui va le dire. Le corps du Christ qui a plusieurs membres. Il y a la tête. C'est le Christ. Puis il y a les membres, et vous êtes des membres du corps. Oui, mais sauf que soyons concrets. Si je regarde mon corps, je peux dire à Jésus, mon corps, c'est ton corps. Vous aviez pensé à ça? Pensez-y. La prochaine fois que vous êtes dans la salle de bain, Jésus, mon corps, c'est ton corps. Sauf si vous avez décidé d'être le seul maître à bord. Jésus repassera une autre fois pour vous demander « Est-ce que tu acceptes de faire alliance avec moi ? Est-ce que tu acceptes que mon corps et mon sang circulent dans ton corps ?» Dieu ne force pas notre liberté. Alors, on va voir ensemble quatre attitudes fondamentales qui vont être pour nous une conversion. Première attitude, c'est la confiance. Est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel ? Est-ce que, quand vous êtes devant Dieu, et vous dites « Sois béni Seigneur pour la merveille que je suis », vous le pensez vraiment ou pas ?
Oui.
Alors, moi je vais vous raconter juste un petit truc. Dans les... au Carmel de Lisieux, puisqu'on parle de la petite Thérèse, qui était fêtée donc le 1er octobre, mais on parlait beaucoup, est-ce qu'on va aller au ciel direct ou pas ? Et puis, vraiment, il y avait une sœur, qui s'appelait la sœur Fébroni du Christ, ils avaient des noms extraordinaires, qui disait que ce n'était pas possible d'aller au ciel direct. Parce que vous vous rendez compte, avec toutes les bêtises qu'on fait, puis on est tellement loin de Dieu, finalement, tellement de travail, qu'on va tous passer au plein d'étoiles. Alors, la petite sœur Thérèse qui dit mais non, parce que la confiance obtient tout. Il suffit d'avoir confiance et évidemment de se repentir de nos péchés avec le cœur, d'accord ? Et quand Jésus voit qu'on se repent avec le cœur, ben il craque. Et pour ça, elle donne une parabole, enfin plusieurs paraboles. Vous avez par exemple la parabole du lapin blanc. Alors, le lapin blanc, elle raconte à ses novices, cette parabole-là. C'est un petit lapin, et puis derrière lui, il y a le méchant chasseur, mais il y a des très méchants, beaucoup plus méchants, chiens. Et ce pauvre lapin, à un moment, eh ben, il se sent complètement à la dernière extrémité de sa vie, parce que devant lui, il y a un mur, derrière lui, il y a les chiens. Et puis, le chasseur avec son fusil. Et qu'est-ce qu'il fait ? Pas si bête. Eh bien, il saute dans les bras du chasseur. Yes ! Et en fait, vous comprenez bien que le chasseur, touché par cette confiance, va le défendre des chiens qui figurent, en fait, la justice humaine. Cette justice humaine qui est inscrite en nous et qui nous dit « Au mieux œil pour œil, dent pour dent, tu vas payer quoi ?» Ok ? Elle donne une autre parabole, c'est les deux enfants espiègles, ils ont fait des bêtises, ces deux enfants. Et puis il y a le papa qui va rentrer à la maison, et puis on a peur du papa, ce qu'il va donner, correction. Et quand le papa arrive, il y en a un qui a la stratégie de dire à son papa, se jeter dans ses bras, lui dire voilà toutes les bêtises que j'ai faites. Et à la fin, il lui dit, comme punition, s'il te plaît, embrasse-moi. Et l'autre enfant, eh bien, il va se cacher derrière la mort. Vous comprenez bien que cette stratégie-là va peut-être entraîner eh bien, autre chose de la part du brave papa. Et la petite Thérèse dit, on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Elle cite Saint Jean de la Croix. La pauvre sœur Fébroni, qui s'appelait Fébroni de la Sainte Enfance, qui défendait les droits de la justice, a fini par mourir, malheureusement, dans une épidémie de grippe espagnole qui a ravagé d'ailleurs la communauté de Lisieux. Et elle est venue visiter en songe la sœur Thérèse. C'était au mois de mai suivant. Et elle demandait est-ce qu'on prie pour elle. Et la petite Thérèse disait qu'elle est en purgatoire sans doute pour n'avoir pas assez compté sur la miséricorde du bon Dieu. Par son air suppliant et son regard profond, elle semblait me dire « Vous avez raison, toute justice s'accomplit sur moi, mais c'est ma faute. Si je vous avais cru, j'aurais été droit au ciel. » Voilà. Donc, la première attitude, c'est la confiance. Ayons confiance que, comme disait Thérèse, ses derniers mots, d'ailleurs, du manuscrit C, elle écrit d'ailleurs au crayon, parce qu'elle n'a plus assez de force pour l'écrire à la plume. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais la même confiance. Parce que, eh bien, tout cela n'est qu'une goutte d'eau dans la fournaise de l'amour. Et ça, c'est vraiment très nouveau chez Thérèse, qui était très scrupuleuse et qui avait toujours besoin que son père spirituel lui dise « mais non, Dieu, il est content de toi. » Même un songe. Vous voyez, sœur Anne de Jésus, la fondatrice du Carmel en France, disait « Si, Dieu est très content de toi. » Là, c'était l'audace. Elle a confiance, et une confiance totale. C'est une confiance qui, en fait, mais postule que Dieu est bon. Quand vous dites « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça ?» Vous éloignez de Dieu, et vous le mettez à l'écart. Pourquoi ? Parce que c'est l'esprit d'accusation. Dieu est innocent du mal, innocent. Regardez Jésus. Au moment de sa passion, bafoué, innocent du mal. Et lorsque son corps souffre dans mon corps, Jésus est innocent du mal. Non, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que, voilà. Arrêtons d'accuser Dieu et de projeter sur Dieu ce qui est dans mon cœur, vous voyez ? Les jeux de... voilà. Alors, en fait... chez Thérèse, ça va loin, à un moment, elle dit, c'était vers la fin de sa vie, elle souffrait beaucoup. Vous savez, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Elle avait fait une tuberculose au niveau des poumons, bien sûr, ça descendait au niveau digestif. Et là, c'est une douleur épouvantable. Et elle l'aimait bien, c'était une parole de Job qui parlait de Dieu, qui disait... même s'il me tuait, j'aurais toujours confiance en lui. Magnifique. C'est pas Dieu qui va nous tuer, mais il permet. C'est le démon qui nous tue. Et cette mort-là, Jésus est venu pour nous arracher à cette mort-là. La petite Thérèse dira, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Ah oui. Et avant elle, bien sûr, si vous lisez les Pères du désert, on ne dit pas qu'il meurt. Ils disent qu'il s'endort. On change de jardin pour aller dans un jardin plus grand. Voilà. Alors, la première attitude qui est pour nous aussi, qui demande une conversion, c'est de donner notre confiance à Dieu. Oui, Seigneur, j'ai confiance. Même de l'avenir, on lui disait à la petite Thérèse, mais vous voyez comme vous souffrez, est-ce que ça ne vous inquiète pas pour l'avenir de souffrir autant? Et elle disait, s'inquiéter pour demain, c'est comme si on se mettait à créer à la place de Dieu. Donc c'est un péché. Tu peux imaginer demain, mais pas la grâce de demain. Ça t'échappe. La confiance. Et elle disait, la confiance, rien que la confiance, doit nous conduire à l'amour. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait tout pour moi si petit, je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. Vous avez reconnu sa dernière lettre à l'abbé Bélière. L'abbé Bélière était un de ses deux pères spirituels, enfin plutôt frère spirituel, qui était très dans l'angoisse et dans les scrupules. Et moi devant Dieu, moi, je peux pas, hein, je dois rester couché lamentablement à terre parce que je me sens tellement lamentable. Et elle lui dit, mais non, jetez-vous dans les bras de Jésus, jetez-vous dans ses bras. Et là, vous allez l'honorer davantage si vous faites confiance. Il n'est qu'amour et miséricorde. Voilà. Deuxième attitude, qui est aussi notre conversion, c'est ce qu'on va appeler l'abandon. L'abandon, c'est un mot qui a été inventé plutôt par saint François de Sales. En gros, l'abandon, ça veut dire se mettre au banc de. Le banc, vous savez, dans la justice, eh bien, on va être au banc de Dieu. C'est-à-dire, on veut dépendre de Dieu. C'est ça, l'abandon. C'est-à-dire, c'est pas suffisant d'obéir au commandements, mais il s'agit d'obéir aux motions et aux inspirations du Saint-Esprit. Tout à l'heure, quand on va aller manger, Seigneur, vers qui je dois aller? Où est-ce que je dois m'installer? Vis dans le Saint-Esprit, quoi, l'abandon. Ok. Alors, c'est quoi l'abandon? C'est déjà reconnaître que nos vies sont dans les mains de Dieu. Nos vies sont dans les mains de Dieu. La petite Thérèse ne l'a pas inventé. Trouvez ça dans les Écritures, Philippiens 2,13 par exemple. Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. Dieu est là qui opère en nous le vouloir et le faire. Acte 17,28. C'est en elle, la divinité, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Romains 11, tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire, éternellement. Voilà, alors notre vie, en fait, c'est une vie conduite par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est créateur, donc même si je ne crois pas en Dieu, le Saint-Esprit est là, ce qui me crée. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis dans les mains de Dieu, même si je ne crois pas en Dieu. Sauf que pour ce qui est du salut, j'ai besoin d'adhérer à lui. Le salut ne se fait pas sans notre oui. On ne va pas nous forcer à aller au ciel. Aime-moi, aime-moi. Ça ne marche pas trop, ça. Mais pourtant, le cri de Jésus sur la croix, c'est bien ça. Est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu plus que cela? Et Jésus encore nous le demande, mais il veut nous le demander. Vous voyez, il veut nous le demander. Comme si, finalement, on avait de l'importance. Ben oui, on a de l'importance. Je peux dire oui ou je peux dire non. Je peux dire oui, mais... Où je peux dire oui, mais en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est un oui franc et massif. Alors finalement, c'est vrai que le choix, c'est est-ce que je veux vivre dans les mains de Dieu ou pas? Alors il y a plusieurs paraboles utilisées par la petite Thérèse. La première parabole, c'est l'ascenseur. La petite Thérèse, elle prend l'ascenseur parce que, vous savez, la voie de la perfection, si on veut y arriver par la 16, seulement la 16, j'ai lu récemment les Pères du désert, hein, au niveau de la 16. Il y en a qui mangent une fois tous les 5 jours, on dort jamais sur un lit, etc. La 16, quoi. Hein. Alors c'est vrai que pour certains, ça réussissait, hein, le don de guérison, etc. Bon, la petite Thérèse, elle dit, ça, je peux pas. On peut très bien aller prendre des orties pour se flageller. Donc, elle dit ça, c'est peut-être intéressant, mais je ne me sens pas attiré à ça. Bon. Mais elle dit quand même que, finalement, puisque la volonté de Dieu, c'est la sanctification, d'accord, pour y arriver, eh bien, soit je prends le chemin caillouteux de la 16 et je vais y arriver à force de prier. Vous savez, moi je prie X heures par jour. Je jeûne au moins 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes biens. Vous vous rappelez qui disait ça dans l'Évangile? Bon, alors qu'il y en avait un dans le fond qui disait « Seigneur, aie pitié de moi ». Voilà. Alors, autrement dit, Thérèse va trouver l'ascenseur des bras de Jésus et elle nous donne juste un truc et c'est ça ce qu'on appelle l'abandon. C'est ce qui nous est demandé à nous, c'est de vouloir ce que Dieu veut, de faire l'exercice de vouloir, de choisir ce que Dieu veut. Et après, c'est Dieu qui fait. Mais nous, si vous avez un escalier là, elle se rappelle une parabole de son enfance, la maman en haut de l'escalier, et elle qui voulait absolument rejoindre sa maman, alors elle monte le petit pied vers la première marche. Mais elle n'arrivera pas à mettre le petit pied sur la première marche. Ben nous, c'est pareil. Si nous voulons être des saints, même si nous voulons atteindre la première marche, on n'y arrivera pas. Ou alors on y arrivera avec beaucoup de fatigue. Et la petite Thérèse disait à une de ses novices, qu'est-ce que ça peut bien lui faire que vous soyez à la première marche ou à la cinquième quand il va vous prendre dans ses bras? Alors, l'abandon, c'est de montrer à Dieu notre bonne volonté. Et c'est lui qui nous prend dans ses bras, l'ascenseur. C'est ça. Alors, il y a après d'autres images qu'elle va utiliser, comme le pinceau dans les mains de sa mère, Madame Gonzague, là, qui était sa mère prieure à l'époque. Elle va être juste un pinceau que Jésus va utiliser, etc. Elle va être aussi comme le petit aigle, le petit oiseau sur le grand aigle. Voilà. Donc, ça, c'est l'abandon. Vous voyez, il y a un aspect, en fait, passif. Je laisse Dieu faire. Et la petite Thérèse, pour ce qui est du miracle de Noël 86, dit « Jésus a tout fait ». C'est Jésus qui fait tout, mais moi, je fais rien. Sauf qu'elle dira plus tard, c'est le deuxième aspect, l'aspect actif, le jour de Noël 86, j'ai fait un gros effort. Faites comme moi. Parce que Dieu ne refuse pas cette grâce. Comme Judith, elle prend la comparaison de Judith, c'est cette femme forte dans l'Ancien Testament. Comme Judith, elle a fait un gros effort. Alors allez-y. Vous voyez, il y a les deux. Il y a les deux. Sinon, ce serait une forme de quiétisme. On laisse Dieu faire et nous, on reste inactifs. Alors, le gros effort, c'est de toujours, toujours choisir le commandement de l'amour. Si on fait un truc, c'est toujours par amour. Elle disait même, quand elle était malade, elle va juste ramasser une épingle et elle le faisait par amour. Et elle disait, je suis en train de sauver une âme en faisant ça. C'est-à-dire que la vie devient fructueuse en Jésus. Parce que nous allons choisir de vivre par amour. Vous connaissez tous cela. Après, c'est une poésie, vivre d'amour. Vivre d'amour. Eh bien, c'est pour chacun de nous, ce vivre d'amour. Vous allez me dire, mais non, ça ne marche pas pour moi parce que je suis trop blessé et j'arrive pas à aimer. Il faut d'abord que je reçoive de l'amour, quoi. C'est normal. Regardez mon petit chien, qui reçoit beaucoup d'amour, donc il peut donner beaucoup d'amour. Ah oui. Sauf que nous, qui sommes les grands blessés de la vie, eh bien, nous avons découvert que si nous obéissons à son commandement d'amour, alors nous allons recevoir de l'amour aussi. Fais Seigneur, je ne cherche pas tant à être aimé qu'à aimer. C'est très libérateur. Vous savez, on a des mécanismes psychologiques parfois terribles. Si je suis persuadé de ne pas être aimable, d'accord? Parce que je ne me supporte pas, vous comprenez, je ne correspond pas à l'idéal que j'aurais voulu, c'est pas possible. Bon, mais tant que je reste comme ça, éventuellement, et par le jeu des choses inconscientes, je vais m'arranger pour que personne d'entre vous, finalement, me donne son amitié. Et on va me trouver vraiment quelqu'un de très désagréable, en tout cas très difficile. Et on va vérifier. Je vérifie effectivement, je ne suis pas aimable. Vous savez, on est souvent enfermé dans des dialectiques comme ça. Alors que si nous décidons d'obéir à Jésus qui nous dit « t'as rien, t'as juste une piécette, c'est tout ce que t'as à donner, ben donne-la ta piécette. Le peu d'amour que tu as, donne-le. » Et le miracle arrive, la multiplication des pains, la multiplication, il va multiplier et à l'infini. Oui, ça s'appelle l'abandon. À nous de décider, j'y vais. J'ai rien, Seigneur, j'ai rien préparé, je ne sais pas faire, je ne sais pas. jamais capable. J'y vais. Parce que vous savez que c'est la volonté de Dieu. Je me rappelle de Mère Teresa. À la fin, elle avait interdiction de prendre l'avion. Je crois que c'était dans les 10 dernières années de sa vie, en tout cas. Elle a toujours pris l'avion. Elle sentait que dans son cœur, elle était appelée. Donc elle aurait la grâce. Et elle a eu la grâce. Alléluia. Bon, je ne suis pas en train de vous dire, faites n'importe quoi. Mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est Dieu premier. N'enfermons pas Dieu dans nos raisonnements humains. Voilà. Alors, donc, la confiance, l'abandon, et en fait, là. La clé pour entrer dans tout ça, c'est finalement de se donner soi-même. Se livrer entièrement à Dieu, vous savez, c'est ce que déjà Sainte Thérèse d'Avila disait. Elle disait, Dieu se donne à nous, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas, nous aussi, donnés à lui complètement. Je la répète. Dieu ne force pas notre volonté, il prend ce que nous lui donnons, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas, nous aussi, donnés à lui complètement. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà donné votre vie à Jésus ? Réfléchissez. Si ce n'est pas fait, profitez. Profitez de faire un pas de plus. Donnez votre vie à Jésus. Que Jésus soit le maître et le seul maître à bord. Que Jésus soit libre de faire ce qu'il veut. Parce que souvent, nous, avec Jésus, on a un peu une conception magique. Jésus, voilà ma liste. Je veux telle grâce, telle grâce, telle grâce, telle grâce. Et basta. Ok. C'est-à-dire Dieu pour moi. Dieu à mon service. Puis parfois on n'est pas content, donc on envoie balader, je ne te parle plus, voilà. Dieu ne répond pas, Dieu il ne m'exauce pas, je dois même prier, enfin des trucs comme ça. Ça ne vous arrive jamais à vous, bien sûr. mais prenons conscience que ce qui nous attend, c'est quoi ? Bon, on va se projeter, on va faire un peu de science-fiction. Dans 200 ans, où est-ce qu'on est ? J'espère qu'on est tous au ciel d'abord. Et c'est quoi le ciel ? C'est que Dieu devient notre époux. Et en fait, il y a quelque chose de génial chez Dieu, c'est que l'époux c'est Jésus, et il peut être mon époux à moi, et à moi seulement. En étant ton époux à toi et à toi seulement. Oui, parce qu'il est Dieu et l'amour est infini. Waouh, vous vous rendez compte, quel mystère. Mais si on commençait maintenant, et ça, c'est la vie dans le Saint-Esprit. Donc, Seigneur, tu me donnes toi ce que tu veux, mais moi, je me donne à toi. Et ça, c'est l'offrande de soi-même à l'amour miséricordieux. D'accord ? Ça, c'est donc comprendre que Jésus, il a soif. Quand il dit « j'ai soif », même à la Samaritaine, et sur la croix, bien sûr, pensez qu'il avait soif seulement d'eau. C'était la deuxième partie de la conversion de Thérèse. Ça se passe en juillet 87. Elle voit une image avec un crucifix et elle entend et elle voit. Elle entend dans son cœur la voix de Jésus qui dit « j'ai soif ». Puis il n'y a une personne pour recueillir le sang. Il se dit « moi, je veux recueillir le sang de Jésus pour le répandre sur les âmes ». Ce « j'ai soif », c'est « j'ai soif de toi ». Il a soif de moi. Parce que je ne me suis pas encore donné suffisamment. Vous comprenez ? Ça vous est déjà arrivé d'aimer vraiment dans votre vie ? J'espère que oui. Et en fait, on a envie de se donner, mais de se donner davantage. Et aussi, mais comment je peux faire pour me donner encore plus? Parce que j'aime, j'aime, j'aime. Parce que vous avez vécu ça avec Dieu. Et bien c'est ça. Tout cet amour, c'est cette source de son cœur, il veut se déverser dans mon cœur. Et puis moi je suis avec mes trucs, avec mes raisonnements intellectuels, j'aimerais bien ça, j'ai vu, et puis c'est tout, quoi. Attends, t'es hors sujet. Entre dans la salle des noces, on verra après le programme. Regarde pas le menu d'abord. Entre dans la salle des noces, entre dans la joie de ton Seigneur. Et ça, c'est la conversion. Et si vous lui dites, non, moi je voudrais d'abord avoir des preuves, je voudrais d'abord que tu me donnes ça, ça, ça et ça, avant de rentrer, bon, ben, tu pourras peut-être attendre un petit peu. Parce que ça, c'est pas la bonne, l'amour. Dans l'amour, on n'achète rien. Celui qui veut acheter l'amour ne récolte que le mépris. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Tu n'achètes pas l'amour, il est gratuit. Est-ce que tu acceptes que Jésus te dise je t'aime à mourir? Et il meurt d'amour pour toi. Et toi, tu veux rester à côté? Non, non, je n'ai pas envie de donner ma vie à Jésus. Voilà. La conversion, c'est se donner entièrement à Jésus. Et dernière conversion, eh bien, c'est en fait d'être, on va dire, pauvre. Pauvre de soi-même. Et si je pense que je peux me débrouiller sans Dieu, même entre chaque dimanche, pas trop de spirituel, s'il vous plaît. Pas trop spirituel. Ok, ok, ok. Donc, si tu penses que tu peux te débrouiller sans Dieu, tu es riche. Tu es un riche, malheureux les riches. Mais si tu penses que tu ne peux pas te débrouiller sans Dieu, alors tu es un pauvre. Et ça, c'est une conversion. Alors, la conversion, elle est où? C'est de voir dans ce malheur, finalement, un bonheur. Je ne peux pas me débrouiller sans Dieu. Oui, je ne suis pas autonome. Thérèse, elle prend l'image de un petit enfant qui ne veut jamais, finalement, devenir grand, parce que quand il sera grand, on lui dira maintenant, tu vas gagner ta vie. Elle dit, ça m'a gagné mon ciel, jamais. Jésus le fait pour moi. Donc, je serai pauvre et pauvre jusqu'au bout, et au soir de la vie, c'est le moment de ma mort, je vais apparaître devant Dieu, mais il m'a dit, où sont tes œuvres? Je vais tout offrir pour les autres. Pour les autres, pas pour moi. Les mains vides. Ok. Est-ce que je reçois tout de Dieu? C'est ce que disait le curé d'Ars. Hein. L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Tout. Alors si tu penses encore que ça va, tu te débrouilles, t'as ce qu'il faut, bon, t'es pas encore converti. T'es pas encore mûr pour vivre avec Dieu dans le Saint-Esprit. Celui qui vit dans le Saint-Esprit, c'est celui qui voit finalement dans ses faiblesses une force. Ah oui, c'est ce que dira Saint Paul, hein, Corinthiens 2 Corinthiens 9, 12. Donc, où Saint Paul nous raconte qu'il avait une aiguille dans la chair. On n'a jamais su ce que c'était, c'est une maladie. Et il a prié pour que Jésus lui enlève, et Jésus lui a dit, non, ma grâce te suffit, parce que ma puissance se déploie dans la faiblesse. Alors lui, il dit maintenant, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bon, vous me direz, c'est pas si facile à vivre, bon, mais ça, c'est une ultime conversion, vous voyez, que nous changeons de regard sur nous-mêmes, que ce qui est faiblesse en nous, cette pauvreté, ben, devient pour nous finalement ce qui nous pousse dans les bras de Dieu. Alors, vous êtes tous ici aujourd'hui, peut-être que vous avez des souffrances. Eh bien, l'effet secondaire de la souffrance, vous a amené ici. Alléluia. C'est quand je suis faible que je suis fort. Ah oui, imaginez que pour vous tout va bien. Non, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église, ça va très bien pour moi. Bon. Vous savez, le genre d'illusion qui fait que la veille de sa mort, on se dit waouh, je suis passé à côté. Alors ça ne va pas nous arriver. Parce que c'est une conversion, vous voyez. Alors si on se récapitule, pour vivre dans le Saint-Esprit, première attitude, c'est la confiance, rien que la confiance. C'est-à-dire, on postule, Dieu est bon, oui, et il a gagné. Il a gagné aussi pour moi. Donc je peux le laisser faire dans ma vie. Donc j'ai confiance pour sa providence. Ne vous inquiétez de rien, nous dit l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. On ne va pas s'en inquiéter. Et je ne vais pas m'inquiéter pour mon salut. Oui, mais mon salut, c'est sérieux. Il faut que je joue aussi. Le jeu d'être dans l'amour. C'est-à-dire, je vais être aussi dans la repentance. Pour accueillir son amour. D'accord ? Ça, c'est la confiance. Deuxième attitude, c'est l'abandon. Je vais apprendre à laisser Dieu faire. Je vais arrêter de ramer. Je vais hisser la voile. Parce que le Saint-Esprit souffle. Je vais arrêter de tout vouloir contrôler dans ma vie, dans la vie des autres. L'abandon, c'est Dieu, c'est Jésus qui fait tout. Et moi, je ne fais rien. Si, je vais quand même, disait la petite Thérèse, jeter des brindilles dans le feu. Les brindilles de l'amour, c'est ce qu'elle dit. Les directeurs disent aux gens de compter leurs bonnes œuvres. Mon directeur à moi, qui est Jésus, me dit de tout faire par amour. Tout. On choisit ce tout. Je choisis tout. Ça, c'est l'abandon. Troisième attitude, le don de nous-mêmes à l'amour. Oui, donner sa vie à Jésus. Franchement, si vous ne l'avez pas fait, moi je vous conseille de l'écrire aujourd'hui, 7 octobre 2023. Je décide de donner ma vie à Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie, je te reconnais comme mon maître, mon sauveur, et toi, exclusivement. L'époux de mon âme. Enfin voilà, vous allez l'écrire avec vos mots à vous. Faites-le. Si vous voulez bien, c'est votre liberté. Ça dépend si on veut vivre dans le Saint-Esprit. Voilà. Et puis, la dernière attitude dont on a parlé, c'est celle du pauvre. Alors, je rajouterais, le pauvre, c'est celui qui voit finalement, même dans ses maladies, ses trucs, un chemin vers Dieu. Et Dieu le rejoint aussi sur ce chemin. Donc c'est un lieu d'alliance. Notre pauvreté n'est plus un malheur. C'est le lieu où Dieu vient. Alléluia. C'est quand je suis faible que je suis fort. D'accord ? Et puis évidemment, derrière, on a soif. J'espère qu'on a soif de Dieu, non ? On a soif, vraiment. Soif de l'Eucharistie. Moi, je vous raconte souvent cette histoire. J'ai connu une femme... Ça s'appelait Estelle Sabatin, elle a monté un mouroir au Gabon et elle aimait bien, elle s'est bronzée pour être jolie pour les mourants. Elle disait aux gens, vous êtes en train de sauver le monde, elle exposait le Saint-Sacrement au milieu des dortoirs là-bas au Gabon. Et elle me disait qu'on lui proposait souvent de partir en croisière pour se détendre et elle disait non. Je n'aurai pas l'Eucharistie tous les jours. J'ai soif de Dieu. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas me passer de Jésus l'Eucharistie. Vous vous rendez compte pour ce qu'elle faisait là. Elle allait dans les hôpitaux psychiatriques de là-bas. On enfermait les plus fous dans des caves et on leur donnait les repas par des soupirails. Il n'y avait évidemment pas d'eau, pas de toilette, rien. Elle allait laver ces gens-là. Elle avait besoin de Jésus. Jésus est ma force, mon soutien. Le Seigneur est mon rempart, mon salut. Voilà. va s'arrêter là parce qu'il est l'heure. Alors, je propose que on termine peut-être par un chant. Parce que tout ça, c'était l'intuition de la petite Thérèse, vous connaissez tous. Son intuition, c'est que sa vocation, c'est quoi? C'est de devenir l'amour. Devenir l'amour, la chanter.